L'actualité, on en parle avec Jean-Yves Bretot et son invité.
Et cette semaine, l'actualité, on s'en parle avec Dominique Le Ménère, le président du département de la Sarthe. Bonjour Dominique Le Ménère.
Bonjour.
Vendredi dernier, le 6 février, les élus du département de la Sarthe étaient réunis en séance plénière à l'abbaye royale de Lépau pour débattre sur les orientations budgétaires du département de la Sarthe. Un débat d'orientation budgétaire qui a beaucoup évoqué les moyens dont disposent les départements pour mener leurs actions, notamment en matière des solidarités sociales, la principale compétence des départements. Quelles sont les difficultés auxquelles doit faire face le département de la Sarthe, comme d'ailleurs tous les départements qui ont, faut-il le rappeler, l'obligation de présenter un budget équilibré contrairement à celui de l'État?
Eh bien, vous... Pour résumer la situation que vous venez d'exposer, il faudrait dire tous les départements sont victimes de ce qu'on appelle un effet ciseau. Alors un effet ciseau, c'est facile à comprendre, c'est que les dépenses augmentent plus vite que les recettes, dans la limite évidemment de la capacité que les départements ont pour investir ou pour leur fonctionnement. S'agissant de l'État, il impose souvent des dépenses supplémentaires, mais pas les recettes correspondantes. Donc il y a à la fois une situation qui est liée à la gestion de la collectivité, et puis un autre aspect qui est lié au fait qu'il n'y a plus aujourd'hui de capacité financière pour les départements d'augmenter leurs recettes, sinon que d'attendre que les dotations de l'État correspondent au montant des dépenses qu'on leur impose. Voilà, en résumé, c'est cet effet-là qui concerne tous les départements, avec des différences, bien sûr, puisque nous sommes aujourd'hui dans une situation qui correspond à cet engagement financier qui a été pris par le département de réaliser des investissements à l'ordre de l'ordre de 100 millions chaque année pour tenir un cap et qui s'étale sur 2021-2030. C'est ce que nous faisons. Donc, encore une fois, la situation est la même de ce point de vue pour l'effet ciseau de tous les départements. Elle est différente selon les gestions.
Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que les départements ont perdu en autonomie financière.
Exactement. L'autonomie financière, c'est quoi? C'est la capacité de fixer le taux de sa fiscalité locale. Il n'y a plus d'impôts pour le département. Les taxes foncières et les taxes d'habitation ont été transférées aux communes et aux communautés de communes, aux communautés urbaines, aux métropoles, qui aujourd'hui en ont seul la gestion. Et donc, les taux de ces impôts sont fixés par les conseils de ces collectivités et le département, lui, n'a plus cette matière.
Donc, ça veut dire qu'il n'y a eu aucune compensation de l'État qui a pris cette décision?
Alors, la compensation se fait à l'instant T où la recette est supprimée, c'est-à-dire qu'on reste avec la même recette qui n'est plus évolutive de la façon dont étaient les taxes, à savoir une progression généralement supérieure à l'inflation et avec une possibilité d'adapter les taux. Donc ça voulait dire qu'il y avait à la fois une progression en volume et une progression en taux de variation. Et là aussi, les départements en sont privés, ce qui fait qu'on a des recettes qui stagnent.
Et comme pour toutes les collectivités, Dominique Le Ménère, le budget des départements est dépendant du budget de l'État avec lequel il a fallu encore cette année composer dans l'incertitude.
Oui, parce que vous l'avez suivi dans l'actualité, le budget de l'État a été voté dans les circonstances que l'on sait, mais surtout très tardivement, ce qui nous a amené nous aussi à décaler les discussions sur le débat d'orientation budgétaire, parce que vous savez qu'un département comme une commune doit voter un budget dit sincère et véritable, c'est-à-dire qu'il doit s'engager sur la vérité de ses comptes, qu'on peut d'ailleurs traduire de manière très précise à la fin de l'exercice avec un compte administratif où là on a la véritable photographie de ce qui a été réalisé. Il faut donc qu'il n'y ait pas trop de décalage entre le budget primitif et le compte administratif.
Alors c'est un budget qui a soulevé aussi des désengagements de l'État et d'autres collectivités territoriales. Comment on fait en fonction de cet état?
Alors la bonne nouvelle cette année, c'est que l'État vient compenser une partie de ce qu'il nous impose avec un fonds de concours, on va l'appeler comme ça, qui nous octroie 7 200 000 euros à rapporter aux 772 millions de budget. Donc vous voyez, c'est reste relativement faible par rapport aux besoins, puisque l'augmentation chaque année de notre budget par les dépenses supplémentaires est évidemment plus importante. Néanmoins, ça permet j'allais dire, de mettre de côté cette possibilité d'avoir un investissement supplémentaire, parce qu'il est bien évidemment hors de question d'affecter cette recette à du fonctionnement, puisque c'est simplement une aide à un coût, et que nous ne l'avons que pour cette année, et nous n'avons aucune assurance pour l'année prochaine. Donc on ne peut pas construire des budgets sur des opérations ponctuelles. Donc la diminution des dotations, j'allais dire, elle est réelle, elle continue, elle s'installe dans la durée, et on comprend mal d'ailleurs que l'État continue à imposer des dépenses supplémentaires alors qu'il sait très bien que on n'est plus en mesure d'y faire face.
Au regard de cette situation, en fonction des moyens dont on dispose, ça veut dire qu'on est obligé à un moment de faire des choix et qu'on peut mettre en difficulté les compétences obligatoires du département ?
Alors les dépenses obligatoires, non, puisque que ce soit le revenu de solidarité active, que ce soit l'allocation personne âgée d'autonomie, que ce soit le handicap ou que ce soit l'aide sociale à l'enfance, nous sommes tenus d'inscrire ces dépenses et d'y faire face. Par contre, tout ce qui concerne les dépenses supplémentaires qui ne sont pas obligatoires, évidemment, c'est les endroits où on peut faire des coupes budgétaires. Donc, il y a toujours ce risque. Alors, nous, on a essayé de préserver l'équilibre en maintenant nos compétences facultatives, en apportant toujours ce soutien. Et je crois que aujourd'hui, si l'État a fait ce fonds de secours en quelque sorte, c'est qu'il a aussi compris que les départements étaient l'échelon de proximité pour lequel le rôle dépassait largement ses compétences obligatoires. On est aujourd'hui capable d'intervenir dans des domaines où il y a urgence. Je prendrais par exemple le domaine de la santé, où on a mis en œuvre un Medibus. C'est pas obligatoire, mais c'est quasiment indispensable de le faire. Donc on est sur des sujets comme ça qui aujourd'hui sont mieux appréciés, et peut-être que ça va changer la donne dans les futures réformes institutionnelles qu'on peut attendre, et on y reviendra sans doute.
On va en parler justement. Alors, dans les compétences non obligatoires, il y a la culture, et Véronique Rivron, la présidente de la vie associative de la culture et du tourisme en Sarthe, a tenu à rappeler que le département avait maintenu en tout cas son soutien aux acteurs associatifs et culturels, contrairement à la région qui a fait le choix de supprimer cette aide-là.
Oui, alors vous avez raison de le souligner, c'est une aide à laquelle on est attaché, mais il y a des régions qui l'ont fait, et il y a des départements aussi qui l'ont fait, parce que j'ai cité le département de la Gironde qui, a supprimé les aides aux associations, a diminué le montant de ses investissements de 100 millions d'euros et a prévu de reporter la construction de collèges et même supprimer 700 emplois. Alors on me dirait, il y en a 7000 dans ce département, donc ça fait quand même 10%. On est sur des choix vraiment politiques qui sont à faire. Nous, c'est pas notre choix. On sait toute l'importance de la vie associative, sportive, culturelle d'ailleurs, très largement, puisque c'est l'intitulé de la commission. Et évidemment, tant qu'on sera en capacité de le faire, on continuera.
Est-ce que vous avez été obligé de rogner à certains endroits ?
Alors, on ne rogne pas, mais on réattribue un certain nombre de moyens en fonction des besoins réel. Il ne s'agit pas de faire la politique chaque année en répliquant ce qu'on a fait les années précédentes. On a vraiment l'intention, quand on prépare un budget, à l'euro près, j'allais dire, de regarder ce qui est utile, ce qui reste indispensable, ce qui l'est moins, ce qui n'a plus lieu d'être. Il y a aussi du dépoussiérage à faire, et il faut le faire, c'est comme dans une maison, il faut le faire régulièrement, sinon ça finit par se voir.
Qu'est-ce qu'il faut dépoussiérer par exemple ?
Alors il y a des procédures qu'on avait mis en œuvre pour certaines actions, alors j'allais dire encore facultatives, qui ne sont pas utiles ou complètement consommées, et donc il faut se poser la question de savoir comment réaffecter ces moyens. Donc on n'est pas dans la suppression, mais dans la réattribution de moyens en fonction des circonstances et des utilisations. Je pense que c'est une gestion dynamique. Si on veut continuer à faire des choses dans notre département, il faut qu'à enveloppe constante, on ait toujours des modifications à la marge, souvent à la marge, parce que ça, il n'y a pas de politique véritablement reniée, mais on est obligé de jouer quand même sur cette utilité ou pas de certaines actions. Je prends des exemples, parce qu'encore une, c'était dans le domaine de la santé, il y avait des aides qu'on trouvait pas tout à fait utiles ou qui correspondaient à une époque, et on était arrivés au terme de cette époque, eh bien, on les bascule sur autre chose.
Alors, vous parliez effectivement des engagements de l'État. Vous avez été très clair avec l'ensemble d'ailleurs du Conseil départemental. C'est que le département ne peut pas se substituer aux carences, au demeurant concernant les questions de santé qui préoccupent les Sartoises et les Sartois. Même si ce n'est pas une compétence directe du département, malgré tout, vous êtes un petit peu obligé de répondre aux attentes des Sartois et des Sartois.
Oui, le département de la Sarthe, comme beaucoup d'autres départements français, est touché par la désertification médicale. Ça veut dire que les médecins qui partent en retraite sont difficilement remplacés. Alors, cette année, c'est un peu mieux que les autres années, puisqu'il semble que les nombres d'installations soient le nombre d'installations soit supérieur au nombre de départs. Mais globalement, il y a eu, depuis ces cinq dernières années, une chute assez forte des conditions d'installation. Alors, il faut savoir aussi qu'avec les nouvelles générations de médecins, avec la féminisation de l'emploi, pour remplacer un médecin ancien mode, il faut deux...
Complètement dévoué à son métier, quelles que soient les heures.
Il faut deux nouveaux médecins, même quelquefois deux et demi. Et puis surtout, un mode de pratique qui a évolué avec des maisons médicales, une mutualisation de moyens et puis une proximité de centres hospitaliers qui est nécessaire pour avoir la garantie et la sécurité. Donc il y a une nouvelle pratique médicale. Mais dans le même temps, on voit bien la difficulté pour des départements de l'intérieur d'attirer des jeunes médecins qui sont plus attirés par le littoral, la Côte d'Azur ou un certain nombre de grandes villes qui bénéficient, elles, de centres hospitaliers universitaires, donc où ils ont suivi leur formation. Alors, ce n'est pas le cas de la Sarthe, puisque le centre hospitalier du Mans n'est pas un centre hospitalier universitaire. Donc, on voit aussi qu'il y a à la fois le problème des départements de l'intérieur, le problème de ne pas avoir de centre hospitalier universitaire, et on n'aura pas. Heureusement, le travail se fait avec la faculté de médecine d'Angers, et qu'on a aujourd'hui des étudiants en première année. Mais souvent, les choix de carrière se font en fin de parcours.
Et on ne choisit pas forcément la Sarthe. Hein.
Et on ne choisit pas, ou alors il y a effectivement des personnes qui sont originaires de la Sarthe et qui ont été suivies, qui ont été accompagnées. Nous, on a signé beaucoup de contrats, par exemple, d'installation pendant au moins 5 ans, dans toutes les catégories, médecins, kinés, dentistes, infirmières de pratique médicale avancée, pour qu'ils s'installent prioritairement dans la Sarthe. Et je veux dire que la plupart le font. Mais ce n'est pas suffisant pour remplacer et assurer le renouvellement complet. Alors là, c'est vraiment l'exemple type d'un domaine dans lequel on n'est pas obligé d'aller. C'est une compétence vraiment de l'État. La sécurité sociale, c'est l'État. Les prescriptions des médecins, ben, ça relève de la sécurité sociale. Et pour autant, le département est obligé d'y aller d'accompagner. Avec le Medibus, ça a été le même principe, puisqu'on va dans les secteurs qui sont les plus désertifiés, dans les 5 communes aujourd'hui, 2500 patients qui n'avaient pas de médecin traitant, ben, qui aujourd'hui sont suivis par le Medibus. C'est évidemment une attente et j'espère qu'on pourra continuer à développer dans ce sens.
Toutes les collectivités territoriales, qu'il s'agisse du département, qu'il s'agisse de la ville du Mans, qu'il s'agisse de la métropole, qu'il s'agisse de la région, ont à cœur de ne pas augmenter l'impôt. Est-ce que face au désengagement de l'État et à la dette de l'État, ce sera malgré tout une ressource dont on ne pourra pas se passer ?
Alors, pour nous, la question ne se pose pas parce qu'on ne bénéficie pas de fiscalité propre. Pour les communes et les intercommunalités, les métropoles, les communautés urbaines, le taux de l'impôt reste un élément d'augmentation possible, hein, mais il y a déjà une augmentation forfaitaire qui est celle votée par le Parlement. Donc si je prends les cinq dernières années, les taxes foncières ont augmenté de plus de 20%. Sans que les taux soient changés. Alors il y a deux solutions, soit la commune augmente son taux et l'impôt augmente encore plus que les 20%, soit il le baisse parce qu'une commune ou une intercommunalité peut baisser son taux pour que le volume de l'impôt n'augmente pas. Donc aujourd'hui, nous, on n'a plus cette capacité. On a simplement des recettes pas dynamiques qui sont les droits de mutation, c'est-à-dire les taxes qu'on paie sur les ventes immobilières. On a les taxes sur les conventions d'assurance, qui sont également des taxes qui nous sont reversées. On a une part de TIPP, la taxe intérieure sur les produits pétroliers, et des recettes qui sont liées aux dotations de l'État, qui fluctue au niveau de l'inflation et est rarement au-dessus. Donc on est sur des contraintes pour nous qui ne nous permettent même pas d'envisager d'augmenter une fiscalité quelle qu'elle soit.
Et l'immobilier se porte plutôt bien en Sarthe ?
Non, l'immobilier se porte moyennement bien, on va dire, pour ce qui est de l'ancien, pas bien pour ce qui est du neuf. Pour des raisons qui sont liées à l'effondrement du nombre de permis de construire dans notre pays. On était à plus de 500 000 il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. On est à 250 000 aujourd'hui, ce qui se traduit évidemment dans le département de la même façon. Et puis un autre phénomène, c'est que la Sarthe est un département où le prix de l'immobilier est très faible. Et tant mieux d'ailleurs, le prix du mètre carré est peu élevé, mais ça a comme conséquence qu'on touche beaucoup moins que d'autres départements. Si je prends par exemple la Loire-Atlantique, qui est évidemment plus peuplée, mais c'était 340 millions d'euros de recettes de droits de mutation. Dans le département, c'est 65-70 millions selon les années.
Dominique Le Ménier, au regard de la situation préoccupante de beaucoup de départements qui n'arrivent plus à exécuter leurs compétences avec le budget dont ils disposent, vous appelez à une réelle réforme territoriale. Qu'est-ce qu'il faut changer ?
Alors, c'est vraiment important parce que ça fait des années qu'on en parle et qu'on parle du millefeuille territorial et on a survendu l'idée qu'il fallait de grands territoires pour que les choses soient mieux gérées et qu'elles soient plus efficaces. Ça, c'est un principe, j'allais dire, de l'Union européenne qui, pour certains technocrates, expliquait qu'il fallait des grandes régions parce que c'était des interlocuteurs plus faciles pour l'Europe et donc pour les politiques mises en œuvre par l'Europe.
Ça, c'est la loi NOTRe.
C'est une partie supplémentaire qui a été ajoutée pour redéfinir la taille des régions et qui, effectivement, a retiré des compétences aux départements pour les confier aux régions. Mais aujourd'hui, on voit que la distance entre les régions et les habitants n'est pas de nature à faciliter les choses. Donc la première condition que je vois et qui a d'ailleurs été formulée dans un rapport il y a peu de temps avant la dissolution par Eric Woerth, c'est qu'on puisse rétablir des équilibres qui sont aujourd'hui des équilibres compris par nos concitoyens, la commune et le département. De la même façon d'ailleurs que l'État est incarné dans les départements par le préfet qui représente l'État, à un échelon territorial qui est compris, identifié depuis 235 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, on est capable d'imaginer une solution qui redonnerait des compétences au département, qui redonnerait des compétences, parce qu'on leur a retiré au fur et à mesure des lois de décentralisation, pour conforter la visibilité et la proximité et, j'allais dire, la gestion pratique d'un certain nombre d'actions politiques. Et puis après, il y a des questions qui sont liées au financement. Je pense qu'une des solutions pour redégager des moyens sans créer de nouvelles dépenses supplémentaires, à l'inverse de ce qu'a fait la loi NOTRe avec les super-régions, c'est de créer un nouveau statut de conseiller territorial pour que les élus soient à la fois les élus de départements et des régions. Donc on diminuerait en gros de 2500 à 3000 élus.
Il y aurait une fusion.
Et on aurait une sorte de réplique de ce que font aujourd'hui les communes et les communautés de communes. Ce sont les mêmes élus qui siègent dans les deux instances. Eh bien, ce serait la même chose dans les départements et les régions. On aurait des élus départementaux élus dans un scrutin départemental pour siéger au conseil régional, enfin qui serait l'assemblée des représentants des départements. Alors ça rassemblerait des élus qui connaîtraient bien leur territoire tout en ayant un intérêt régional.
Voilà, il y a peut-être des élus qui ne seront pas d'accord avec cette solution.
Oui, ce n'est pas une solution partagée à 100%, mais aujourd'hui, je ne connais pas de proposition qui recueille 100% d'avis favorables. Je pense par contre, du point de vue de la rationalisation de nos institutions, de la lisibilité, de l'effort qui sera aussi conséquent de diminuer le nombre d'élus, ce qui est également une attente de nos compatriotes, des habitants de nos territoires, eh bien, on aurait une formule qui redonnerait du sens à l'engagement politique dont on a besoin aussi. On voit bien la difficulté aujourd'hui d'attirer des élus dans les différentes instances, d'attirer des engagements citoyen. Et je crois que ça serait un nouveau départ dans ce domaine. Et j'y serais, pour ma part, vraiment très, très attentif. Et c'est des propositions que j'ai déjà formulées au Premier ministre lorsqu'il a consulté les présidents de département. Et puis, dans le cadre du rapport de Woerth, d'Éric Woerth, où j'avais également inscrit, ou ça avait d'ailleurs été inscrit dans le rapport.
Sur les précédentes décentralisations, il a souvent été question de supprimer les départements. Est-ce qu'aujourd'hui, le département est une collectivité dont le rôle n'est plus contesté parce que son rôle est très utile en proximité ?
Oui, je crois qu'aujourd'hui, la vision sur les départements a changé. Je me souviens encore du discours de Manuel Valls, Premier ministre, lors de son discours de politique générale qui annonçait la suppression du département avec... un effet de surprise assez important, y compris d'ailleurs du président de la République, puisque c'est même François Hollande qui est revenu sur cette annonce, en ayant été lui-même d'ailleurs président de département. Et le Premier ministre actuel était lui-même président de département. Et donc je crois que cette vision qui était technocratique de grands ensembles pour gérer un pays est battue en brèche par les résultats. Et ensuite par l'efficacité qui est démontrée par nos départements. Donc oui, le département, avec les communes, fait bien partie du cœur de l'administration française.
Et les Français et les Françaises ont besoin de proximité. Le débat d'orientation budgétaire a rappelé la gestion saine et dynamique du département de la Sarthe, au demeurant face aux moyens dont il dispose pour répondre à l'augmentation régulière des dépenses de solidarité. Vous avez appelé les élus du département à s'interroger sur le sens de vos actions. On rappelle qu'au 1er janvier 2025, à titre d'exemple, les services départementaux accueillaient près de 2300 enfants. 1350 familles étaient accompagnées à domicile dans le cadre des difficultés éducatives qu'elles rencontrent. Et ces données ne cessent d'augmenter d'année après année. 117 millions d'euros sont d'ailleurs prévus dans le budget 2026 dédié à l'enfance. Vous dites qu'il faut s'attacher aux causes profondes et réelles qui expliquent les besoins de solidarité face à une société qui a changé. Vous-même, vous parlez d'un modèle en souffrance.
Oui, c'est vraiment le cœur aujourd'hui de notre difficulté sociale. On parle d'enfants, donc évidemment c'est essentiel. On parle de moyens d'accompagnement curatif. Et donc, je pense qu'il faut s'attaquer à des moyens préventifs. Et mettre en œuvre ces moyens préventifs, ça veut dire regarder quelles sont les causes profondes de ce délitement sociétal, de ce délitement familial, et donc aller en amont plutôt qu'en aval. Aujourd'hui, la difficulté qu'on rencontre, c'est de faire face à un nombre d'enfants placés par les magistrats, et puis retirés de leur famille parce qu'on a de plus en plus de signalements, et ne considérer qu'on est dans notre rôle que si on répond à ces besoins. Il faut vraiment aller beaucoup plus tôt, et donc ça passe par l'éducation, ça passe par la prévention, ça passe par, je vais dire, quasiment une école de certains parents qui auraient besoin d'avoir des informations très jeunes avant d'avoir des enfants, parce qu'il y a des sujets qui sont liés à l'éducation même, et puis il y a tous les problèmes qui sont liés aux dépendances, à l'alcool, et qui sont des questions de santé publique, j'allais dire, très largement, sans incriminer plus les uns que les autres. Donc on est sur quelque chose qui correspond à un besoin vital pour notre pays de diminuer et de faire face d'une autre façon à une problématique qui ne cesse de s'aggraver. Quand je parlais même d'un tsunami, vu le nombre d'enfants, alors je disais à mes collègues, tenez-vous bien, entre 400 et 500 signalements préoccupants chaque mois. Pour le département, c'est que dans un département comme la Sarthe, c'est quand même quelque chose déjà d'extrêmement important. Mais quand je regarde d'autres départements comme le département du Nord, on est à 2300 au total 3500 enfants concernés. Il y en a 24 000 dans le département du Nord. Donc on est quand même sur une problématique nationale très forte, et ça veut dire que le département ne peut pas seul à lui-même répondre à ces questions. Même s'il doit faire face à cette situation, il doit être un de ceux qui participent à la prévention.
À ce propos, par rapport aux moyens alloués au département, les élus du département ont tous voté un vœu qui a été proposé par les élus de l'opposition face à la situation financière des départements. Pas de décentralisation sans libre administration et de libre administration sans autonomie financière. C'est une bataille qui, pour la réforme territoriale, entre autres, qui fait peut-être consensus maintenant chez tous les élus, qu'on soit de droite comme de gauche.
Oui, je crois que j'ai voulu symboliser notre accord sur le vœu présenté par la minorité, d'autant plus que c'était les représentants du Parti socialiste et divers gauches qui le formulaient, parce que c'est un changement de paradigme. On est sur une volonté exprimée clairement qui va à l'encontre de ce qu'a été la loi NOTRe. Donc, évidemment, je ne peux en être que satisfait et qui va dans le sens de ce que je souhaitais et que j'évoquais tout à l'heure, d'avoir l'autonomie financière, l'autonomie fiscale et la reconnaissance de la territorialité du département comme entité pleine et entière. Donc, moi, ça, évidemment, je considère que c'est important. Et si c'est partagé par tous les groupes politiques, eh bien, on ne peut que s'en féliciter.
On reviendra ultérieurement lors du vote du budget, des nouveaux projets, des nouvelles réalisations que va proposer le département de la Sarthe dans ce budget 2026. Mais très globalement, quel cap vous souhaitez donner à cet exercice 2026 qui concerne quand même 566 000 Sartois qui vivent dans un contexte particulièrement anxiogène ces dernières années?
Alors, la première des choses, c'est qu'on fasse faire face à nos deux obligations pour tout ce qui concerne les dépenses de solidarité. C'est plus de la moitié du budget, donc évidemment, c'est ce qu'on peut faire dans tous les domaines des personnes âgées, du handicap et de l'enfance, je l'ai dit. C'est aussi tout ce qui concerne la vie associative et culturelle du département, parce qu'on voit bien que dans ces moments difficiles, il est important de conserver toute l'animation de notre territoire. Et puis, c'est tenir le cap de nos investissements, parce que sur le programme stratégique 2021-2030, on sait qu'on a un certain nombre de programmes à réaliser et on va s'y tenir. Donc on continue à développer, on continue à innover. Le numérique a été l'exemple le plus parlant. Il faut 20 ans pour développer un programme et donc s'y tenir, c'est assurer qu'on arrive bien à son terme et donc on continue là aussi dans notre volonté de dégager les moyens suffisants pour poursuivre notre action au service des Sartois.
Merci beaucoup Dominique Leménière d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous êtes le président du département de la Sarthe. On aura l'occasion de revenir justement sur les choix budgétaires par rapport aux compétences du département, mais pas que. Et merci à Evan Guette pour la réalisation technique de cette émission.